Chapitre 14e, Moluc. Attaque nocturne, le roi de Gébé. Nous naviguions au milieu d'un groupe d'îles admirables par leur végétation. Nous glissâmes devant Amboine, poussés par une brise imperceptible, et pourtant nous appelions de nos voeux les vents et les orages, car nous éprouvions les cruels atteints de ce climat dévorateur. La mousson nous était contraire, les courants nous drossaient, et nous perdions la nuit le peu de chemin que nous avions fait le jour. Le soleil brûlait notre équipage, les maladies enchaînaient les forces des matelots, et nous eûmes besoin de toute notre constance, de tout notre courage, pour ne pas nous laisser aller au désespoir. Nous naviguâmes ainsi pendant une quinzaine de jours au milieu d'un archipel riche et fécond. Partout la verdure couvrait le rivage, partout aussi le silence et la solitude. Toutefois, un vent favorable se leva enfin avec le soleil et nous poussa de l'avant. Bientôt nous nous trouvâmes dans une sorte de détroit ravissant, au milieu duquel le navire cinglait avec majesté. Nous étions occupés à admirer ce magique spectacle, quand un grand nombre de pirogues, détachées de toutes les parties de l'archipel, mirent le cap sur notre corvette. Loin de craindre leur approche, nous la désirions. Nous savions bien ce que nous avions à redouter des malaises si nous étions vaincus. Nous n'ignorions pas que leur triomphe, c'est la mort et la torture de leurs ennemis. Mais la monotonie de notre navigation nous pesait à l'âme. Nous voulions des épisodes à nos risques et périls. Cependant, à l'horizon, un point noir se dessina. Bientôt il grandit, s'allongea, prit des formes bizarres, étendit les bras et envahit l'espace. De ses flancs ouverts s'échappèrent des rafales terribles auxquelles se mêlaient des gouttes de plus larges et rapides. Le navire fut entraîné un moment, et les prudentes pirogues, à l'approche du grain, s'abritèrent dans leurs criques étroites et profondes. À cet orage succéda, comme de coutume, le calme plat de tous les jours, et la nuit nous retrouva à peu près dans les mêmes eaux. Je vous ai parlé d'un matelot anglais nommé Anderson que le commandant avait enroulé dans l'une de nos précédentes relâches. Il était agile, fort, robuste, patient, adroit. Aussi l'employait-on souvent à la timonerie. Par suite de cette préférence méritée que lui accordait l'état-major dans les moments difficiles, Anderson était souvent le but des railleries amères des gabiers les plus habiles et marchait surtout, dont vous connaissez le caractère irritable, ne manquait jamais de dire quelques énergiques paroles sur les épaules de l'anglais. Le soir de cette petite alerte qui nous fut donnée par les malais, Anderson, quoique son quart fût achevé, resta sur le pont quand la nuit fut venue et se hissa à l'extrémité du beaupré. « Voilà, hé, English !» lui cria Marchais. « Que fais-tu là, accroupi comme un crapaud ? Je regarde. »« Que regardes-tu, les marsouins ? Tes cousins ?» Je regarde plus loin que ça, car vois-tu, Marchais, cette nuit il y aura bourrasque, et tu me diras merci, toi le premier. Ne croirait-on pas qu'il fixe le point, qu'il sait où nous sommes, et qu'il est le maître de faire venir la brise? Ce n'est pas du ciel que vient dans la rafale, c'est de la terre. Qui t'a dit ça? Personne, mais je le sais. Anderson avait été mousse sur un des navires anglais en croisière devant Toulon pendant les guerres de l'Empire. Depuis lors, il avait toujours navigué, et dans les Moluques surtout, il avait fait de fréquentes campagnes. La vue de cet homme était si prodigieuse qu'il distinguait à l'œil nu les mâts d'un navire au-delà de l'horizon, beaucoup mieux que nous à l'aide de nos lunettes d'approche. Il connaissait les mœurs des Malais, dont il parlait assez bien la langue, et il était étonné que depuis notre séjour dans ces parages, on ne nous eût pas encore attaqués. La démonstration du matin, dont sans doute le grain avait empêché l'exécution, lui paraissait un acte hostile qui lui avait inspiré des craintes pour la nuit. Aussi ne voulut-il pas se coucher dans la prévision d'une affaire sérieuse. Anderson avait du cœur, et ses craintes ne naissaient que de la juste opinion qu'il avait du caractère malais. La nuit était calme et lourde. Le soleil s'était couché rouge comme du sang, et la corvette roulait, silencieuse, sur sa quille. Marchais, Petit et leurs camarades poursuivaient sans cesse Anderson de raillerie, tandis que celui-ci se contentait de leur répondre « Nous verrons bientôt ». Tout à coup, l'anglais, attentif, se dresse à demi sur le mât avancé. Son œil plonge dans les ténèbres et d'une voix calme et forte, il s'écrie « Pirogue de l'avant !» L'officier de quart s'élance, regarde, ne voit et n'entend rien. Mais Anderson interroge de nouveau l'espace et dit d'une voix plus ferme « Pirogue de l'avant, pirogue à bâbord, pirogue à tribord, pirogue de l'arrière !»« Combien ?» dit le brave Lamarche. « Un grand nombre !» Marchais Petit ne riait plus, ne goguenardait plus et se mordait les lèvres d'impatience et de dépit. Sur les avertissements du matelot anglais, des ordres rapides sont donnés chacun à son poste. les canons se chargent, les pistolets pendent aux ceintures, les briquets aux flancs. Le commandant a l'œil à tout et se prépare bravement à l'attaque. Le branle-bas de combat est ordonné et nous attendons l'ennemi sans le voir encore. Le voilà pourtant. Il nous entoure, il vient à nous lentement et en silence. Ses courtes pagaies font à peine frémir les flots paisibles. Il pense sans doute que nos sabords sont peints, que, semblable à celle des navires marchands, notre batterie n'a guère que des canons de bois, et les mâles avides s'attendent à un facile triomphe. Les mèches sont allumées, les glaives hors du fourreau, les crocs en arrêt. « Ouvre les sabords !» La lumière de la corvette se projette loin et éclaire la flotte des pirates. Ils ont vu les bouches béantes de nos canons et s'arrêtent avec prudence devant la fête que nous leur avons préparée. Ils réfléchissent encore, ils restent un instant en panne. Mais bientôt la sagesse leur donne conseil, ils virent de bord et s'éloignent comme des voleurs désappointés. Les courants continuaient de jouer un grand rôle dans cette navigation au milieu d'un groupe nombreux d'îles et de récifs dangereux, surtout dans certaines saisons de l'année. La route se faisait selon leurs caprices. Et deux jours après cette rencontre des malais, si heureusement évitée, nous nous trouvâmes, comme par enchantement, engagés au milieu d'un grand nombre de rochers que la nuit nous avait dérobés et où nous courions risque d'être brisés à chaque instant. Nous mouillâmes par un fond de trois brasses. Le soleil se leva radieux, et je ne saurais dire l'admirable spectacle qui s'offrit à nous. Là, à notre côté, plus loin à droite, là-bas aussi sur notre gauche, des roches, les unes tapissées de verdure, les autres nues et découpées, s'élançant des eaux comme des clochers, diversement colorées par les feux plus ou moins obliques du jour naissant. Le courant se glissait entre elles, tantôt tranquille, tantôt rapide. Les cris aigus des oiseaux marins qui venaient chercher là un abri paisible se faisaient entendre au-dessus du bruissement des brisants. J'appelais dans mes albums cette rade de la baie des clochers, quoiqu'elle soit connue, je pense, sous le nom de Boula Boula. Il fallait pourtant sortir de ce labyrinthe. Une embarcation fut mise à flot pour sonder la route, et M. Ferrand, un de nos jeunes aspirants, chargé de cette difficile opération, s'en acquitta avec tout le succès que le commandant attendait de son zèle et de son expérience. Une compensation dans nos longues fatigues nous était réservée. Les vents nous poussèrent jusqu'en vue de Pisang, sommet élevé de quelques centaines de toises à qui je dois quelques lignes. Savez-vous ce que c'est que cette île ? Une masse serrée et compacte de verdure impénétrable qui arrête au passage tout rayon de soleil. Des feuilles larges comme de vastes parasols s'entrelacent à des folioles imperceptibles, découpées, ciselées, de couleurs variées à l'infini. Des troncs noueux disputent l'espace à des troncs lisses et jettent côte à côte avec eux leur tête vers le ciel et leurs racines au fond des eaux. Des branches effilées, épineuses, polies, droites ou tortues se croisent, se mêlent, sans que vous puissiez dire à quel pied elles appartiennent. Un silence religieux règne dans cet amas de verdure et de feuillage. L'île entière n'est qu'un arbre gigantesque, éternel, qui dispute sa place aux flots et descend avec eux jusqu'au fond des abîmes. La corvette était mouillée au large, le calme venait de nous saisir de nouveau, et dans l'espérance de nouvelles conquêtes botaniques ou zoologiques, le commandant fit armer un canot sous les ordres de Bérard pour aller visiter Pisang. Mais ce quoi, Godichaud et moi, nous accompagnâmes notre ami et retournâmes à bord sans avoir pu faire plus de trois pas sur cette île impénétrable. Seulement, au pied d'un rima, nous trouvâmes quelques débris de coquillages et la trace de feu récemment éteint. Le roi de Guébé avait probablement passé par là et il faut que je vous fasse le portrait de ce roi de Guébé. Vous avez remarqué sans doute de ces vieilles figures de renards empaillés que les fourreurs placent debout derrière les vitres de leurs magasins. Eh bien, à l'immobilité près, le roi de Guébé est le renard dont je vous parle. Il est petit, vif, sautillant, piétinant. Il voulait tout voir, tout savoir. Il pressait la main de celui-ci, il frappait sur l'épaule de celui-là. Il rudoyait le matelot, il caressait l'officier. Il s'élançait d'un seul bond vers le gaillard d'avant et revenait en caracolant au gaillard d'arrière. Et puis, riant, chantant, parlant haut avec une volubilité à vous étourdir, il paraissait fort surpris de ne pas pouvoir sourire à ses paroles d'ami ou de protecteur. Il entra chez le commandant, demanda une plume, de l'encre, du papier. Il griffonna en arabe un compliment pour cet officier, pour sa dame et pour le navire. Puis il nous pria, ou plutôt il nous ordonna d'aller mouiller dans son île. Il nous jura que nous y serions reçus avec distinction et que les vivres ne nous feraient pas défaut. Il parut contrarié de notre refus et s'en consola pourtant par l'assurance qu'il nous donna de nous accompagner jusqu'à Rawak. Ce monarque si singulier se faisait appeler Capitan Guébé. Il était maigre, étique. Il avait les pommettes saillantes, le front développé, les yeux vifs, scintillants, petits, privés de cils. Son nez se dessinait aigu, pointu et court. Sa bouche ne s'arrêtait qu'aux oreilles, et les 4 ou 5 dents qu'il restait avaient une teinte toute coquette de jaune tirant sur le vert. Quelques poils gris pendaient à son menton à fossettes. Ses bras étaient grêles ainsi que ses jambes, ses mains et ses pieds ossus et biscornus, ses épaules anguleuses et sa poitrine rétrécie. À tout prendre, il aurait pu passer pour un babouin assez bien taillé. Son chef sans cheveux était couvert d'un turban qui n'avait pas dû être lavé depuis bien des années. Un large pantalon, noué autour des reins et descendant jusqu'à la place du mollet, couvrait ses cuisses décharnées. Et il avait acheté, à Amboine sans doute, une robe de chambre à grand ramage qui lui donnait une ressemblance parfaite avec ses singes savants que les Savoyards promènent chez nous de ville en ville. Les singes m'en voudraient de la comparaison. La flottille du roi de Guébé se composait de 3 caracors montés par un grand nombre de guerriers qui paraissaient lui obéir en esclaves. De la première de ces embarcations qui nous accosta, sortit une voix humble, implorant comme une grâce spéciale la permission de laisser monter à notre bord 2 des principaux officiers du roi de Guébé. Nous étions trop courtois pour ne pas accueillir avec bienveillance une demande ainsi formulée, et les 2 lieutenants du monarque furent bientôt près de nous. Notre brave matelot petit ne contenait plus sa joie. Il se sentait heureux de voir à ses côtés des hommes plus hideux que lui. Il se pavanait gravement en montrant du doigt ses camarades, les guébéens visiteurs, et peu s'en fallut qu'il ne se crût un Apollon ou tout au moins un Antinous. Quand la caracore montée par le roi fut arrivée bord contre bord, le monarque indien s'amarra la corvette. Puis il monta sans en demander la permission et défendit impérieusement à ses officiers de le suivre. Dès lors s'établirent des échanges entre ses équipages et le nôtre. Nous donnions des foulards, des couteaux, des ciseaux, des rasoirs, des aiguilles. On nous offrait en échange des arcs, des boucliers, des flèches artistement travaillées, des chapeaux de paille d'une forme très originale et des perles d'une assez belle eau que les Guébéens tenaient enfermées dans de petits étuis de bambou. Cependant, la corvette filait toujours et les caracors à la remorque paraissaient vouloir faire route avec nous. Le commandant ne jugea pas prudent de naviguer avec un tel voisinage et souhaita le bonsoir au roi de Guébé, qui comprit à merveille cette impolitesse. Celui-ci nous salua donc à son tour et nous promit de venir nous rejoindre à la terre des Papous où nous allions mouiller. Petit était sur l'échelle lorsque le roi de Guébé descendit. Il le regarda en face et lui dit, comme s'il pouvait en être compris, « Marsouin, tu es un brave gabier et je t'estime parce que tu viens de me détrôner. » Le roi de Guébé, croyant qu'on lui adressait un compliment, prononça quelques paroles inintelligibles en arabe ou en malais sans doute, et Petit, tout rayonnant de cette réponse, lui répliqua « Cré coquin, que tu allais !» Là-dessus, ils se saluèrent à la musulmane. Le capitaine sauta dans une de ses embarcations, dont je vais vous parler en détail, et notre brave matelot remonta à bord, où il dîna avec un appétit inaccoutumé. Son succès l'avait enorgueilli. Il était temps qu'une brise soutenue nous poussât jusqu'à notre premier relâche, car depuis plus de 2 mois, notre pauvre équipage épuisé se traînait à peine sur le pont et dans la batterie. La dysenterie et le scorbut ne cessaient pas leur ravage. Rawak, où nous allions mouiller, pointait à l'horizon avec ses dômes de verdure dessinés déjà sur un ciel bleu, et la gaieté se glissa encore dans nos causeries du soir. Les caracours de Guébé avaient fui loin de nous. C'étaient à coup sûr les pirates les plus effrontés et les plus téméraires de ces mers à moitié inconnues, si nous en jugions par la hardiesse et l'insolence de leur visite. Rien n'égale à la dextérité avec laquelle les Guébéens manœuvrent ces curieuses embarcations longues de 40 à 60 pieds. Elles sont étroites, leurs poupes et leurs proues s'élèvent à une hauteur prodigieuse. Les extrémités en sont terminées en croissant ou en boule et sont destinées à recevoir le pavillon. Les bancs sur lesquels s'assied l'équipage sont protégés contre le soleil par une toiture charpentée, recouverte de feuilles de bacois, de cocotiers, de bananiers. Je doute fort que les Guébéens emploient la voile dans leur navigation, mais à bâbord et à tribord de chacune d'elles, les courbes légères, solidement amarrées et échelonnées sur les flots, portent des pagayeurs en grand nombre, qui font ainsi contrepoids et maintiennent l'embarcation dans un équilibre parfait. Des magasins ou armoires fermées contiennent les armes et les provisions de l'équipage, et je ne saurais dire le nombre immense de flèches qui nous furent offertes lors de notre première entrevue près de Pisang. Au surplus, toute description écrite de ces belles caracores n'en donnerait qu'une imparfaite idée, et je me hâte d'ajouter que seulement après les avoir vues, j'ai pu me représenter les galères à double et à triple rang de rames dont parlent les anciens. Rawak venait d'étaler devant nous ses richesses tropicales. Chacun de nous, sur le pont, dévorait de l'œil le fond d'une rade où nous allions bientôt nous délasser de tant de fatigue. Les malades, dans leur hamac, savouraient doucement un air terrestre après lequel ils avaient tant soupiré. Mais la nuit nous surprit au milieu de notre allégresse et nous louvoyâmes devant l'île jusqu'au lendemain matin. L'élève Guérin fut chargé d'aller sonder la rade et la mission fut remplie avec cette haute intelligence qui distinguait le jeune officier dont le courage, depuis cette époque, est sorti vainqueur d'un grand nombre de rudes épreuves.